Chapitre 8. L'amour vrai, commencé, est impitoyable. La découverte du Nestor avait été suivie d'une de ces ruptures colériques où, chez les femmes, la rage va jusqu'à l'assassinat. Puis la période des lâchetés, auxquelles l'amour sincère s'abandonne avec tant de délices, était venue. Aussi, depuis un mois, la comtesse aurait-elle donné 10 ans de sa vie pour revoir Lucien pendant 8 jours. Enfin, elle en était arrivée à accepter la rivalité d'Esther, au moment où, dans ce paroxysme de tendresse, avait éclaté, comme une trompette du jugement dernier, la nouvelle de l'arrestation du bien-aimé. La comtesse avait failli mourir, son mari l'avait gardée lui-même au lit en craignant les révélations du délire. Et depuis 24 heures, elle vivait avec un poignard dans le cœur. Elle disait, dans sa fièvre, à son mari: « Délivre Lucien, et je ne vivrai plus que pour toi !»« Il ne s'agit pas de faire des yeux de chèvre morte, comme dit madame la duchesse !» s'écria la terrible Asie en secouant la comtesse par le bras. « Si vous voulez le sauver, il n'y a pas une minute à perdre. Il est innocent, je le jure sur les os de ma mère. »« Oh oui, n'est-ce pas ?» cria la comtesse en regardant avec bonté l'affreuse commère. « Mais, dit Asie en continuant, si Monsieur Camusot l'interroge mal, avec 2 phrases il peut en faire un coupable. Et si vous avez le pouvoir de vous faire ouvrir la conciergerie et de lui parler, partez à l'instant et remettez-lui ce papier. Demain il sera libre, je vous le garantis. Tirez-le de là, car c'est vous qui l'y avez mis.
Moi ?
Oui, vous. Vous autres, grandes dames, vous n'avez jamais le sou, même quand vous êtes riches à millions. » Quand je me donnais le luxe d'avoir des gamins, ils avaient leurs poches pleines d'or. Je m'amusais de leur plaisir. C'est si bon d'être à la fois mère et maîtresse. Vous autres, vous laissez crever de faim les gens que vous aimez sans vous enquérir de leurs affaires. Esther, elle, ne faisait pas de phrases, elle a donné, au prix de la perdition de son corps et de son âme, le 1 000 000 qu'on demandait à votre Lucien, et c'est ce qu'il a mis dans la situation où il est. « Pauvre fille, elle a fait cela, je l'aime !» dit Léontine. « Ah, maintenant !» dit Asie avec une ironie glaciale. « Elle était bien belle, mais maintenant, mon ange, tu es bien plus belle qu'elle, et le mariage de Lucien avec Clotilde est si bien rompu que rien ne peut le remmancher !» dit tout bas la duchesse à Léontine. L'effet de cette réflexion et de ce calcul fut tel sur la comtesse qu'elle ne souffrit plus. Elle se passa les mains sur le front, elle fut jeune. « Allons, ma petite, haut la patte et du train !» dit Asie, qui vit cette métamorphose et en devina le ressort. « Mais, dit madame de Maufrigneuse, s'il faut empêcher avant tout M. Camusot d'interroger Lucien, nous le pouvons en lui écrivant 2 mots que nous allons envoyer au palais par son valet de chambre, Léontine. « Rentrons alors chez moi, » dit madame de Sérisy. Voici ce qui se passait au palais pendant que les protectrices de Lucien obéissaient aux ordres tracés par Jacques Collin. Les gendarmes transportèrent le moribond sur une chaise placée en face de la croisée dans le cabinet de M. Camusot, qui se trouvait assis dans son fauteuil devant son bureau. Coquart, sa plume à la main, occupait une petite table à quelques pas du juge. La situation des cabinets des juges d'instruction n'est pas indifférente, et si ce n'est pas avec intention qu'elle a été choisie, on doit avouer que le hasard a traité la justice en sœur. Ces magistrats sont comme les peintres, ils ont besoin de la lumière, égale et pure, qui vient du Nord, car le visage de leur criminel est un tableau dont l'étude doit être constante. Aussi, presque tous les juges d'instruction placent-ils leur bureau, comme était celui de Camusot, de manière à tourner le dos au jour et conséquemment à laisser la face de ceux qu'ils interrogent exposée à la lumière. Pas un d'eux, au bout de 6 mois d'exercice, ne manque à prendre un air distrait, indifférent, quand ils ne portent pas de lunettes, tant que dure un interrogatoire. C'est à un subit changement de visage observé par ce moyen et causé par une question faite à brûle-pourpoint que fut due la découverte du crime commis par Castaing, au moment où, après une longue délibération avec le procureur général, le juge allait rendre ce criminel à la société faute de preuves. Ce petit détail peut indiquer aux gens les moins compréhensifs combien est vive, intéressante, curieuse, dramatique et terrible, la lutte d'une instruction criminelle, lutte sans témoin, mais toujours écrite. Dieu sait ce qui reste sur le papier de la scène la plus glacialement ardente, où les yeux, l'accent, un tressaillement dans la face, la plus légère touche de coloris ajoutée par un sentiment, tout a été périlleux comme entre sauvages qui s'observent pour se découvrir et se tuer. Un procès-verbal, ce n'est donc plus que les cendres de l'incendie. « Quels sont vos véritables noms ?» demanda Camusot à Jacques Collin. « Don Carlos Herrera, chanoine du chapitre royal de Tolède, envoyé secret de Sa Majesté Ferdinand VII. » Il faut faire observer ici que Jacques Collin parlait le français comme une vache espagnole, en baragouinant de manière à rendre ses réponses presque inintelligibles et à s'en faire demander la répétition. Les germanismes de M. de Nucingen ont déjà trop émaillé cette scène pour y mettre d'autres phrases soulignées, difficiles à lire, et qui nuiraient à la rapidité d'un dénouement. « Vous avez des papiers qui constatent les qualités dont vous parlez ?» demanda le juge. « Oui, monsieur, un passeport, une lettre de Sa Majesté catholique qui autorise ma mission. Enfin, vous pouvez envoyer immédiatement à l'ambassade d'Espagne deux mots que je vais écrire devant vous, je serai réclamé. Puis, si vous avez besoin d'autres preuves, j'écrirai à son éminence le grand aumônier de France et il enverrait aussitôt ici son secrétaire particulier. « Vous prétendez-vous toujours mourant ?» dit Camusot. « Si vous aviez véritablement éprouvé les souffrances dont vous vous êtes plaint depuis votre arrestation, vous devriez être mort, » reprit le juge avec ironie. « Vous faites le procès au courage d'un innocent et à la force de son tempérament, » répondit avec douceur le prévenu. « Cocard, sonnez ! Faites venir le médecin de la conciergerie et un infirmier. Nous allons être obligés de vous ôter votre redingote et de procéder à la vérification de la marque sur votre épaule, » reprit Camusot. « Monsieur, je suis entre vos mains. » Le prévenu demanda si son juge aurait la bonté de lui expliquer ce qu'était cette marque et pourquoi la chercher sur son épaule. Le juge s'attendait à cette question. « Vous êtes soupçonné d'être Jacques Collin, forçat évadé, dont l'audace ne recule devant rien, pas même devant le sacrilège, » dit vivement le juge en plongeant son regard dans les yeux du prévenu. Jacques Collin ne tressaillit pas, ne rougit pas. Il resta calme et prit un air naïvement curieux en regardant Camusot. « Moi, monsieur, un forçat ? Que l'ordre auquel j'appartiens et Dieu vous pardonne une pareille méprise. Dites-moi tout ce que je dois faire pour vous éviter de persister dans une insulte si grave envers le droit des gens, envers l'Église, envers le roi mon maître. » Le juge expliqua, sans répondre, au prévenu que, s'il avait subi la flétrissure infligée alors par les lois aux condamnés aux travaux forcés, en lui frappant l'épaule, les lettres reparaîtraient aussitôt. « Ah, monsieur, » dit Jacques Collin, « il serait bien malheureux que mon dévouement à la cause royale me devint funeste. »« Expliquez-vous, » dit le juge, « vous êtes ici pour cela. »« Eh bien, monsieur, je dois avoir bien des cicatrices dans le dos, car j'ai été fusillé par derrière comme traître au pays, tandis que j'étais fidèle à mon roi par les constitutionnels qui m'ont laissé pour mort. »« Vous avez été fusillé et vous vivez ?» dit Camusot. J'avais quelques intelligences avec les soldats à qui des personnes pieuses avaient remis quelque argent. Et alors ils m'ont placé si loin que j'ai seulement reçu des balles presque mortes, les soldats ont visé le dos. C'est un fait que son Excellence l'ambassadeur pourra vous attester. Ce diable d'homme a réponse à tout. Tant mieux, d'ailleurs, pensait Camusot, qui ne paraissait aussi sévère que pour satisfaire aux exigences de la justice et de la police. « Comment un homme de votre caractère s'est-il trouvé chez la maîtresse du baron de Nucingen, et quelle maîtresse, une ancienne fille ?»« Voici pourquoi l'on m'a trouvé dans la maison d'une courtisane, monsieur, » répondit Jacques Collin. « Mais avant de vous dire la raison qui m'y conduisait, je dois vous faire observer qu'au moment où je franchissais la première marche de l'escalier, j'ai été saisi par l'invasion subite de ma maladie, je n'ai donc pas pu parler à temps à cette fille. » J'avais eu connaissance du dessein que méditait Mademoiselle Esther de se donner la mort, et comme il s'agissait des intérêts du jeune Lucien de Rubempré, pour qui j'ai une affection particulière, dont les motifs sont sacrés, j'allais essayer de détourner la pauvre créature de la voie où la conduisait le désespoir. Je voulais lui dire que Lucien devait échouer dans sa dernière tentative auprès de Mademoiselle Clotilde. Et, en lui apprenant qu'elle héritait de 7 millions, j'espérais lui rendre le courage de vivre. J'ai la certitude, monsieur le juge, d'avoir été la victime des secrets qui me furent confiés. À la manière dont j'ai été foudroyée, je pense que le matin même on m'avait empoisonnée. Mais la force de mon tempérament m'a sauvée. Je sais que, depuis longtemps, un agent de la police politique me poursuit et cherche à m'envelopper dans quelque méchante affaire. Si, sur ma demande, lors de mon arrestation, vous aviez fait venir un médecin, vous auriez eu la preuve de ce que je vous dis en ce moment sur l'état de ma santé. Croyez, monsieur, que des personnages, placés au-dessus de nous, ont un intérêt violent à me confondre avec quelque scélérat pour avoir le droit de se défaire de moi. Ce n'est pas tout gain que de servir les rois, ils ont leur petitesse. Mais l'Église seule est parfaite. Il est impossible de rendre le jeu de physionomie de Jacques Collin, qui mit avec intention 10 minutes à dire cette tirade, phrase à phrase. Tout en était si vraisemblable, surtout l'allusion à Corentin, que le juge en fut ébranlé. « Pouvez-vous me confier les causes de votre affection pour M. Lucien de Rubempré ?»« Ne les devinez-vous pas? J'ai 60 ans, monsieur. Je vous en supplie, n'écrivez pas cela. C'est... Faut-il donc absolument ?»« Il est dans votre intérêt, et surtout dans celui de Lucien de Rubempré, de tout dire, » répondit le juge. « Eh bien, c'est... Ah, mon Dieu, c'est mon fils !» ajouta-t-il en murmurant. Et il s'évanouit. « N'écrivez pas cela, Coquart !» dit Camusot tout bas. Coquart se leva pour aller prendre une petite fiole de vinaigre des 4 voleurs. « Si c'est Jacques Collin, c'est un bien grand comédien !» pensait Camusot. Coquart faisait respirer du vinaigre au vieux forçat que le juge examinait avec une perspicacité de lynx et de magistrat. « Il faut lui faire ôter sa perruque !» dit Camusot en attendant que Jacques Collin eût repris ses sens. Le vieux forçat entendit cette phrase et frémit de peur, car il savait quelle ignoble expression prenait alors sa physionomie. « Si vous n'avez pas la force d'ôter votre perruque, oui, Coquart, ôtez-la » dit le juge à son greffier. Jacques Collin avança la tête vers le greffier avec une résignation admirable, mais alors sa tête, dépouillée de cet ornement, fut épouvantable à voir. Elle eut son caractère réel. Ce spectacle plongea Camusot dans une grande incertitude. En attendant le médecin et un infirmier, il se mit à classer et à examiner tous les papiers et les objets saisis au domicile de Lucien. Après avoir opéré rue Saint-Georges, chez Mademoiselle Esther, la justice était descendue quai Malaquais y faire des perquisitions. « Vous mettez la main sur les lettres de Madame la Comtesse de Sérisy, » dit Carlos Herrera. « Mais je ne sais pas pourquoi vous avez tous les papiers de Lucien. » »« Lucien de Rubempré, soupçonné d'être votre complice, est arrêté, » répondit le juge, qui voulut voir quel effet produirait cette nouvelle sur son prévenu. « Vous avez fait un grand malheur, car il est tout aussi innocent que moi, » répondit le faux Espagnol, sans montrer la moindre émotion. « Nous verrons, nous n'en sommes encore qu'à votre identité, » reprit Camusot, surpris de la tranquillité du prévenu. « Si vous êtes réellement Don Carlos Herrera, ce fait changerait immédiatement la situation de Lucien Chardon. » « Oui, c'était bien Madame Chardon, Mademoiselle de Rubempré, » dit Carlos en murmurant. « Ah, c'est une des plus grandes fautes de ma vie. » Il leva les yeux au ciel. Et à la manière dont il agita ses lèvres, il parut dire une prière fervente. Mais si vous êtes Jacques Collin, s'il a été sciemment le compagnon d'un forçat évadé, d'un sacrilège, tous les crimes que la justice soupçonne deviennent plus que probables. Carlos Herrera fut de bronze en écoutant cette phrase habilement dite par le juge, et pour toute réponse à ces mots, sciemment, forçat évadé, il levait les mains par un geste noblement douloureux. Monsieur l'abbé, reprit le juge avec une excessive politesse, si vous êtes Don Carlos Herrera, vous nous pardonnerez tout ce que nous sommes obligés de faire dans l'intérêt de la justice et de la vérité. Jacques Collin devina le piège au seul son de voix du juge quand il prononça Monsieur l'abbé. La contenance de cet homme fut la même. Camusot attendait un mouvement de joie qui eût été comme un premier indice de la qualité de forçat par le contentement ineffable du criminel trompant son juge. Mais il trouva le héros du bagne sous les armes de la dissimulation la plus machiavélique. « Je suis diplomate et j'appartiens à un ordre où l'on fait des vœux bien austères, » répondit Jacques Collin avec une douceur apostolique. « Je comprends tout et je suis habitué à souffrir. Je serais déjà libre si vous aviez découvert chez moi la cachette où sont mes papiers, car je vois que vous n'avez saisi que des papiers insignifiants. » Ce fut d'un coup de grâce pour Camusot. Jacques Collin avait déjà contrebalancé, par son aisance et sa simplicité, tous les soupçons que la vue de sa tête avait fait naître. « Où sont ces papiers ? Je vous en indiquerai la place si vous voulez faire accompagner votre délégué par un secrétaire de légation de l'ambassade d'Espagne qui les recevra et à qui vous en répondrez, car il s'agit de mon état, de pièces diplomatiques et de secrets qui compromettent le feu roi Louis XVIII. » « Ah, monsieur, il vaudrait mieux. Enfin, vous êtes magistrat. D'ailleurs, l'ambassadeur, à qui j'en appelle de tout ceci, appréciera. » En ce moment, le médecin et l'infirmier entrèrent, après avoir été annoncés par l'huissier. « Bonjour, monsieur, » dit Camusot au médecin. « Je vous requiers pour constater l'état où se trouve le prévenu que voici. Il dit avoir été empoisonné, il prétend être à la mort depuis avant-hier. » « Voyez s'il y a du danger à le déshabiller et à procéder à la vérification de la marque. » Le médecin prit la main de Jacques Collin, lui tâta le pouls, lui demanda de présenter la langue et le regarda très attentivement. Cette inspection dura 10 minutes environ. « Le prévenu, répondit le médecin, a beaucoup souffert, mais il jouit en ce moment d'une grande force. » « Cette force factice est due, monsieur, à l'excitation nerveuse que me cause mon étrange situation, » répondit Jacques Collin avec la dignité d'un évêque. « Cela se peut, » dit le médecin. Sur un signe du juge, le prévenu fut déshabillé. On lui laissa son pantalon, mais on le dépouilla de tout, même de sa chemise. Et alors, on put admirer un torse velu d'une puissance cyclopéenne. C'était l'Hercule Farnèse de Naples, sans sa colossale exagération. À quoi la nature destine-t-elle des hommes ainsi bâtis ? Dit le médecin à Camusot. L'huissier revint avec cette espèce de batte en ébène qui, depuis un temps immémorial, est l'insigne de leur fonction et que l'on appelle une verge. Il en frappa plusieurs coups à l'endroit où le bourreau avait appliqué les fatales lettres. 17 trous reparurent alors, tous capricieusement distribués. Mais malgré le soin avec lequel on examina le dos, on ne vit aucune forme de lettre. Seulement, l'huissier fit observer que la barre du T se trouvait indiquée par 2 trous dont l'intervalle avait la longueur de cette barre entre les 2 virgules qui la terminent à chaque bout et qu'un autre trou marquait le point final du corps de la lettre. « C'est néanmoins bien vague, » dit Camusot en voyant le doute peint sur la figure du médecin. Carlos demanda qu'on fît la même opération sur l'autre épaule et au milieu du dos. Une 15aine d'autres cicatrices reparurent que le médecin observa sur la réclamation de l'Espagnol et il déclara que le dos avait été si profondément labouré par des plaies que la marque ne pourrait reparaître dans le cas où l'exécuteur l'y aurait imprimé. En ce moment, un garçon de bureau de la préfecture de police entra, remit un pli à M. Camusot et demanda la réponse. «